With TV, you can't even think of something different. With movie, you can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Une technique, mais une science.
Michel, vous voulez parler de qui elle est? Qui elle était? Bon? Donc, pour celui qui est
d'équipe? Ah, c'est moi.
D'équipe?
Qui est comme bien mis comme ni? Pourquoi ils sont bons?
Bonjour. On vous propose d'écouter tout de suite sur la grenouille une table ronde organisée hier après-midi dans le cadre du Festival international du documentaire de Marseille, modérée par Circa Müller, la programmatrice de l'écran parallèle Traduire l'Europe. Cette table ronde réunit un large panel de réalisateurs européens présents au FID.
First thing, let me tell you, this program is not a EU program. It's not. It hasn't. Doesn't have to do with the politics of the EU, but it's rather about Europe as a historic cultural space that we are in and that has larger dimensions.
Aujourd'hui, en discutant le titre de cet écran de parallèle, donc Traduire l'Europe, on se demandait, c'était lié à la présidence de la France de l'Union européenne, et ce n'est pas du tout lié à ça, ni à la politique européenne, mais plutôt à cette idée d'identité européenne, un espace historique et culturel qui nous entoure.
Of course, the politics discuss a lot how we can get closer together. I mean, the whole discussion about the vote in Ireland and elsewhere are also trying to bring Europe closer. But what we're aiming at here is to look at how can we bridge the cultural differences, how can we better understand each other, and not to better do politics or commerce, but purely for the sake of understanding.
On a parlé de cette politique européenne par rapport au rapprochement des pays, le nom en Irlande, etc. Mais le but ici, c'est de mieux se comprendre. Et on est sur cet élan de compréhension.
And I would like to open this with asking the directors present whether they feel, in a way, as European directors, or whether they rather feel that they come from their own native cinematography, or even something else, that they don't feel connected to either. So I would like to open up with a question whether there is a general European feeling or a general European filmmaking here. So let me pass. I'll start with you and pass.
Je voudrais débuter la discussion en demandant aux réalisateurs donc s'ils se sentent plutôt européennes ou plutôt représentants de leur propre pays, et cette question de l'identité européenne et du cinéma européen.
Bonjour. Moi, je me suis posé cette question justement avant de venir, et je crois que ni l'un ni l'autre, en fait. Je crois que la question m'intéresse. Du point de vue des échanges possibles, mais pas du point de vue des nationalités, et je ne crois pas qu'il y ait une identité européenne, en tout cas. Enfin, moi, je ne le sens pas comme ça.
Et je voudrais dire simplement qu'en étant à Marseille, venant du nord de la France, enfin, ayant passé mon enfance dans le nord de la France, je me sens complètement dépaysée ici, à Marseille. Donc ça veut dire que c'est relatif, les idées de frontières. On peut parler des climats, on peut parler des langues. La façon de vivre est plus liée au climat que... Enfin, toute une partie de notre façon de vivre est plus liée au climat et aussi à l'histoire de notre pays. Enfin, tout est mélangé, il y a beaucoup de facteurs, comme on dit.
Pour moi, je suis iranienne. Mais en fait, je me sens même pas comme réalisatrice ou je sais pas quoi, iranienne, mais... En fait, ce que tu veux dire par ça, c'est... En fait, je pense que pour moi, spécifiquement, oui, on peut dire que je suis une Iranienne un peu nomade qui est en France, mais quand même depuis 20 ans. Donc, pareil, J'étais assez étonnée qu'on avait écrit en dessous de mon film France, parce que je pense que le producteur qui est français, ils ont donné un peu une nationalité à mon film, mais voilà, c'est un truc qui me dépasse un petit peu. Que pourquoi on donne une nationalité à un film comme ça? Que c'est le producteur seulement qui donne la nationalité à la film.
Moi, je suis d'origine franco-allemande, donc de père allemand, de mère française, ce qui fait que j'ai baigné tout le temps dans les deux cultures et les deux langues. Mais en rapport au film, je me suis vraiment pas du tout posé de question d'européanité. Par ailleurs, je vois pas le film et voire même le cinéma comme ayant une appartenance particulière. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'assez apatride. Et sinon, que ça appartient peut-être à la maison cinéma.
Bon, moi, je suis italien, j'habite en Espagne, j'ai fait mes études en France, donc je pense que comme résumé d'une partie d'Europe, au moins, ça va. Je pense que je veux lancer une petite idée un peu contraire à ce qu'on vient de dire là. Parce que je pense que c'est peut-être pas la question de comment on se sent. Parce qu'on se sent évidemment ouvert au monde. Et donc on veut communiquer avec tout le monde. Autre chose, c'est de reconnaître de quoi nous sommes faits. Et je pense que nous sommes faits des traditions européennes. Et ça, je pense que tous ceux que nous sommes ici, les gens qui ne sont pas d'Europe, nous reconnaîtraient facilement comme des Européennes. Ou bien, évidemment, avec des mélanges spécifiques. Parce que je pense que si on dit que, disons, quand on voyage, et, par exemple, en Amérique centrale, et on parle avec les gens d'un certain cinéma qu'on ne voit jamais là, parce que l'Amérique centrale est sous l'empreinte complète des États-Unis, et donc les cinémas auxquels, je pense, nous tous nous référons, il n'est pas présent, on se retrouve dans un autre monde, on se retrouve à parler dans un endroit dans lequel ce qui est notre racine, non pas parce que nous l'avons choisi, mais parce qu'elle nous a bâti, est vraiment quelque chose qui nous définit par rapport à dans la conversation. Ce qui ne veut pas dire du tout que ce soit une fermeture. Au contraire, moi je pense que c'est bien de reconnaître de quoi on est fait pour savoir de quoi on parle aux autres.
Moi, je pensais aussi à la façon dont les films se font. Puis c'est des films, enfin, en tout cas, mon film, c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez légère. Et la personne qui est venue pour filmer avec moi en Inde, à Chandigarh, est une artiste anglaise, en fait. Et le musicien avec qui j'ai travaillé est un musicien dublinois. Donc, je suis allé faire la musique à Dublin. Et finalement, tous les trois, on avait en commun d'être artistes plasticiens et d'être intéressés par cette idée de modernité occidentale, déplacée, réappropriée en Inde et au Brésil, à Brasilia et à Chandigarh. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est quelque chose d'européen, mais qu'il y avait qu'à un moment, il y a une curiosité comme ça pour un sujet commun, une interrogation, par exemple, là, dans ce cas-là, par rapport à la modernité, et en fait, il y a sa propagation et ses limites aussi, comme ça, comme un peu quelque chose du siècle dernier.
As a person, I feel really very bounded to my nation, and I'm originally from Slovakia and living in Czech Republic, and also because of this living in another country, this original bond is even strengthened, and many of you, as I heard, has a very similar experience.
Comme personne, je suis très liée à mon pays, c'est la Slovaquie, et je vis actuellement dans la République tchèque, et justement, ces liens deviennent encore plus forts vivant à l'extérieur de mon pays d'origine.
And of course, that this bond is very much based on the language, that is a kind of a structure of the experiences, structure of how person can experience the world, and so. That's why I think that also the European nations between each other really needs the translations.
Et ce lien est fortement lié au langage, à notre façon de s'exprimer, d'exprimer dans le monde. Et c'est pour ça que je pense que les pays européens ont besoin d'être traduits, besoin des traductions.
Yeah, and it's especially the translation of the experiences. And concerning the film, for me, the most important language of the film is in images, and they are universal. So in this way, I think that these film images could be a good translator.
La traduction, c'est surtout important pour moi quand il s'agit des expériences. Pour moi, en tant que cinéaste, c'est à travers les images que je m'exprime, et c'est un langage qui est universel, donc je trouve que les images fournissent une très belle traduction universelle.
I think a little bit like Claudio, that we have a background that makes us European, but I think at a certain, especially on the formation that I had, history of art, all this thing comes more of an European way of looking at things. But I think at a certain point, when you begin your personal, more personal ways, for example, I really like the more Asian way of seeing things sometimes. And so I think it becomes, that's the part when it becomes a mixture, and it's really nice. But for example, you were talking that...
Comme Claudio, je trouve que notre héritage européen nous forme. Mais à partir d'une expérience, commençons par la formation, pour moi c'était l'histoire d'art, on a un point de vue européen qui ensuite est modifié par nos expériences personnelles. Par exemple, moi j'ai une affinité avec le regard asiatique, et c'est justement ce mélange qui est intéressant.
Even in the images that you were saying that it's universal, the way of looking at images is not universal.
C'est vrai, comme André disait, que les images sont universelles, mais la façon de les regarder ne l'est pas. Et c'est un point de départ.
But it was nice, for example, to see there's a Korean, South Korean film. If the persons were not South Korean, Asian, I don't know if I would knew at once it was from Asia. But then again, it has a sensibility that I think is quite Asian, you know. And so I think she herself is already a part of a mixture, you know, because probably she gets a lot, because South Korea, it's now opening. And so I think, this is my thought, that she sees a lot of European films, and so, yeah, it's a mixture.
Par exemple, j'ai vu un film qui vient de Corée du Sud. Donc, ici, je n'aurais pas su du départ que ça aurait été que c'était un réalisateur asiatique. Et maintenant, cette sensibilité qui aurait été plus facile à reconnaître auparavant est en train de changer, parce que la Corée du Sud est en train de s'ouvrir à l'Occident, au monde, et forcément, il y a des influences européennes qui font ce mélange.
Now, when you make any film initially, of course, I assume, after having met all of you, you make the film because you feel a very great inner urge to make it. That's the first thing. But then it's also the question, what kind of audience are you addressing? Do you have that audience in mind when you're making the film? And next step then is, where is that audience? Which language does it speak? In Gazelle's film, for example, all the dialogues are rendered in three languages. It's Italian, French, and English.
Je me demandais, avant de réaliser un film, vous avez tous une envie commune, intérieure très forte de produire quelque chose, de créer quelque chose. Mais en plus, je me demandais, est-ce que vous ciblez le public avant de réaliser ou en train de tourner le film? Et vous pensez au public quand vous êtes en train de tourner. Par exemple, Gazelle, son film est le dialogue est en trois langues, italien, français et anglais.
And some of the other films actually, or some of the other films chose to work exclusively with images or with very little dialogue. I mean, your film, Anne, has some dialogue that is not translated. That is almost more like an atmospheric thing. Is this a decision also with the how your, you know, how, does it make it easier for films to travel? Are these decisions that you make early on when you make a film? Because if you want to share it with another audience, then those are
questions that I guess all of you are asking yourself.
Et par rapport aux autres films, parfois il y a très peu de langage ou très peu de dialogue. Parfois, ça semble être une ambiance sonore. Et est-ce que vous vous demandez la question, je m'exprime pas en parole pour que le film soit plus facile à diffuser dans le monde entier, pour que ça puisse voyager et être partagé par un public plus large?
Pour mon film, en fait, évidemment, quand je l'ai fait, normalement dans mes films en général, évidemment, je tiens en compte le regard occidental ou européen, si on veut dire ici, et oriental, parce que je suis orientale, mais c'est sûr que j'ai eu de l'éducation occidentale qui fait la forme de mon art, entre guillemets, c'est occidental. Donc ça, je suis bien consciente, mais j'ai toujours joué avec ce double jeu avec l'audience orientale et occidentale parce que j'ai envie et c'est très, très drôle comment c'est perçu justement par l'audience occidentale et orientale. Par exemple, dans mes films, en général, quand il y a moi dedans avec un tchador, les hommes, une femme iranienne artiste de ma génération m'a dit que j'étais nue parce que dans la forme, je n'étais pas nue, j'étais très couverte, mais dans le fond, je me dévoile, donc je suis nue pour la mentalité orientale. Et pour une femme française qui a écrit un critique là-dessus, j'étais une tronche d'arbre avec un visage. Donc, je n'étais même pas un être humain, laissant tomber une femme. Donc, moi, je tiens en compte ça, j'aime bien cette ambiguïté. Mais pour ce film-là, évidemment, les langues, déjà pour moi, dans la vie quotidienne, je manipule trois langues, qui est persan, anglais, français. Et le groupe avec qui je travaillais, en fait, je pense qu'il y a plus que les trois langues qu'on a vu, anglais, français et italien, c'est qu'il y avait aussi persan et kurde. Donc pour moi, évidemment, je pensais que c'est un kurde qui regarde, avec un peu de chance, il parle soit français, soit italien, soit anglais, donc il va suivre le film. Pas que quand le kurde qui parle, et quand les Iraniens parlent aussi. Parce qu'en fait, pour moi, comme c'est sur le sans-papier, le demandeur d'asile, c'était aussi important que eux, si jamais ils n'apprenaient pas bien italien, ils comprennent le film. Donc c'était vraiment ce truc croisé. C'était... Et puis le sous-titrage, je le disais en fait un peu comme une partie du texte. Pour moi, ce n'était pas tellement du sous-titrage. C'était intégré, c'est pour ça qu'il y avait un choix de typographie différente, de fonts. Donc c'est une partie du texte. Et anglais aussi parce que c'est ma première langue étrangère. C'est plus fort pour moi que le français, bien que je vis en France. Donc pour moi, c'est très, très normal que l'anglais, c'est très naturel de l'avoir aussi. Donc du coup, les mélanges de langues, pour moi, ça se fait d'une façon très, très naturelle. Par contre, si jamais je le montre au Japon, qu'ils vont mettre un sous-titrage japonais, alors là, je considérerais un sous-titrage. Parce que ça ne va pas appartenir à mon film. Alors ça, je pense que ça va être un peu bizarre.
Je voulais dire trois choses. Une, mon film était présenté comme vidéo-installation la première fois, avec deux écrans dans lesquels il y avait les mêmes images, pas synchronisées. D'un côté, il y avait l'originel roumain, qui est ce qu'on a entendu ici, et de l'autre côté, il y avait, les voix étaient doublées en espagnol, mais par des roumains. Donc, ce n'était pas l'espagnol pur, c'était l'espagnol avec un accent étranger. Et tout ça, justement, parce que je pense... que peut-être une des choses qui constitue l'Europe, c'est la traduction. Je pense que c'est ça, nous. Le fait qu'il n'y a pas, heureusement, une langue commune unique, hein, même si l'anglais nous sert pour parler, fait que nous tous, disons que nous voyageons beaucoup et que nous avons vécu dans différents pays, en fait, on manie d'autres langues, au moins, si ce n'est pas plus que ça. Hein. Ça c'est deux choses. La troisième, c'est par rapport au public dont tu parlais. Je pense que là encore, il faut distinguer de ce qu'on veut, nous, que c'est évidemment arriver au maximum de public et ce qui nous offre le circuit dans lequel on montre nos travaux. Donc, je pense que c'est assez spécifique quand on sait qu'on va commencer par montrer quelque chose dans un milieu artistique, donc plutôt vidéo installation, plutôt centre d'art. On sait qu'on va avoir accès à un certain public. Et on sait que si on fait quelque chose pour la télé, par exemple, on va avoir accès à un public énorme, mais absolument anonyme, dans lequel on n'a pas du tout du feeling direct, du feedback. évidemment, peut-être on t'envoie de la télé un message en disant les chars étaient bien, non? Donc c'est assez complexe, mais pour ma part, j'en tiens compte quand je fais des travaux. Je pense que ça va passer par un milieu plutôt en art contemporain, donc je peux caler ça de cette façon, ou ça va passer à la télé, donc je vais le caler plutôt de cette façon. Parfois, c'est le même travail, mais avec des petites différences qui permettent de les montrer dans un endroit ou dans l'autre.
Moi, je crois que j'ai un travail un peu mutique et un peu progressivement qui devient très sonore, mais pas avec des mots. Et je crois que j'en ai pas la nécessité, en tout cas pas pour l'instant. Et par contre, le fait de poser la question, d'y penser avant à comment les gens vont regarder, moi je crois pas trop à ça. C'est-à-dire, quand je suis dans le travail, je crois pas qu'on puisse imaginer à ce moment-là comment c'est reçu. Enfin, moi je peux pas, en tout cas. Je me pose la question là, mais déjà c'est difficile. Enfin,
When you're editing your film, that is also a point when you start to think about, maybe not while you're filming and shooting, but the kind of first point is when you're editing, you have to ask yourself how is this going to be received, or you know that's when the audience very often comes into the picture and how that reacts.
Par exemple, quand vous faites le montage de votre film, c'est peut-être à ce point-là, après le tournage, que vous pensez à la réception de votre œuvre.
C'est plutôt quand tout est vraiment fini, en fait. Et enfin, il y a eu une petite panique, en fait, au moment du. Il y a quelqu'un du festival, en fait, qui m'a laissé un message un peu de panique, je sais plus, il y a 3 semaines, parce que ils étaient en bouclage de catalogue et ils cherchaient les dialogues du film et ils pensaient que c'était un oubli. Et donc, pour l'anecdote, c'était drôle parce que c'était juste qu'il n'y avait pas de dialogue, quoi. Mais c'est ça qui me fait prendre conscience aussi de ce genre de questions que je ne me pose pas du tout, en fait.
I don't think about an audience when I do my videos. But I think more about the film I would like to see on a screen. And yes, and I mean, we all work with images, so we try to make everyone to connect with images, but of course you cannot guarantee that, and it's very, very difficult. When you make a film, this film is done and it takes a life, and it takes its own life, and you let them go away, bye-bye. And
quand je tourne mes films, je ne pense pas au public, je pense plutôt à le film que j'aurais envie de voir sur l'écran. Et on travaille tous avec des images, on essaie d'être fidèle aux images, mais on peut pas garantir le reste. On crée quelque chose qui prend forme, qui est sa propre vie. Et à la fin, c'est ciao, ciao.
And your film, hopefully, if it gets to be seen, it will have a lot of interpretation, and that you cannot handle it, and you better not.
Avec un peu de chance, votre film serait diffusé, et il y aura beaucoup de réactions différentes qui seront forcément plus ou moins dures à supporter.
I will say maybe a technical note that... there is to be critical to myself, there is too much talking in my film, and it's only images of clouds, and below it it's still talking, and I observed two different approaches of audience, and one of them was that people just was sinking into the images, and they just picked up some of the words and sentences, and I think it's a completely great kind of perceiving this film. But
juste un petit point technique, je m'autocritique. Pour moi, dans mon film, j'ai l'impression qu'il y a trop de dialogue.
les cotations en bas de l'écran, en dessous des nuages, sont constants. Et j'avais l'impression, par rapport à la réception du film, que le public était fondu par les images des nuages et qu'ils attrapaient de temps en temps certaines de ces cotations. Mais
But when it is screened abroad and there is no translation to headphones, but there are subtitles, then the audience is forced to read the subtitles and they cannot have this experience of sinking into images. So if I had thought about the international audience more before, I would probably give less talkings to the film.
Pourtant, à l'étranger, il y a du sous-titrage, donc le public est forcément obligé de lire le sous-titrage et s'accrocher plus au dialogue. C'est une autre expérience, ils se font moins dans ces images de nuages. Et si j'aurais pensé auparavant à un public international, j'aurais peut-être rajouté un peu moins de paroles.
Mais pour moi, le cinéma, c'est de l'ordre du geste humain, un geste humain pour se faire comprendre d'un autre humain. Et il est complètement ouvert dans ce sens-là, dans le prolongement de la peinture, dans le prolongement de la musique. On doit vraiment sentir la main, la patte, l'œil, le corps, la façon de se tenir sur terre. Et c'est pour ça que je ne vais pas du tout dans le sens des mots. Bon, moi, le cinéma, il doit parler au sens, aux cinq sens, pas au sens de l'idée, quoi, au sens de tout ce qui, justement, n'appartient pas à l'idée, tout le reste. Voilà, donc je trouve qu'il est complètement adéquat à ça. Moi, je suis passée par le cirque parce que justement, je voulais pas du théâtre, je voulais pas des mots. Je trouvais qu'il y avait trop de mots dans les arts plastiques et je trouve qu'il y en a trop aussi dans le cinéma. Mais je m'attends d'un film qui parle à mes sens, c'est-à-dire qu'un sentiment de liberté, je le ressentirais par rapport à un geste, par rapport à, ça peut être un geste de caméra ou un geste dans le son ou un geste de la personne humaine que je vois devant moi. Mais ça a toujours trait au geste et non pas aux mots. Si c'est le mot, c'est que parfois il y a des choses qui sont portées par les mots, je ne le nie pas. Mais je dis que souvent, on veut raconter les choses par les mots au lieu de les vivre et de les faire vivre au spectateur par ses cinq sens.
Là, du coup, je suis embarrassé par la dernière intervention vis-à-vis de ma façon d'envisager les films. Non pas que je sois en désaccord au niveau de ce que le film peut véhiculer, qui doit aller peut-être au-delà d'une problématique d'idées, mais moi j'ai un rapport à la parole dans mes films qui est constant, et parce que je la crois totalement constitutive en fait de ce qu'est l'être humain. Et en tant que tel, le cinéma étant, de mon point de vue, essentiellement de l'ordre du témoignage, il se doit de témoigner de ça aussi. En tout cas, c'est l'angle d'approche que j'ai décidé de prendre. Et donc, pour revenir à la question de départ sur comment envisager un film sur une éventuelle carrière internationale, en tout cas ce passage de traduction et autres, comme mes films sont très fréquemment, enfin, lient très fréquemment images et textes, dans une même image en fait, au sein de l'écran, sans qu'il y ait forcément une voix off, la question s'est posée plusieurs fois pas forcément sur le dernier mais sur des réalisations antérieures où il y a effectivement un moment où le texte se met à dire quelque chose et à créer une espèce de sensibilité, de rythme qui est absolument inféodé à la langue et qui, lors d'une traduction, va créer une rythmique différente, ce qui fait qu'en fait, ça devient un autre film. Cela dit, j'ai souvent eu aussi l'impression que, enfin, regardant majoritairement des films en version originale et avec sous-titres, que lorsque je regarde un film sous-titré et que je le regarde non sous-titré, je ne vois pas le même film, tout simplement parce que la circulation de mon œil au sein de l'écran, particulièrement lorsque l'écran est grand, et différente, et ça m'est arrivé plusieurs fois de redécouvrir totalement un film lorsque je le regardais sans sous-titrage, des raccords que j'avais pas du tout perçus, voire même des éléments de l'image que j'avais loupé. Donc en même temps, il me semble que traduire un film lorsque ça en passe par le sous-titrage, c'est également porter un regard sur le film qui est plus tout à fait le même en fait. On est en train de on bascule vers une sorte de double langage. C'est, enfin bon, ça m'a relativement marqué à plusieurs occasions. Je ne sais pas comment, enfin, si ça vous est arrivé également d'avoir ces espèces de double perception, de regard différé sur un film.
Comme tu as dit, tu veux faire quelque chose qui a du geste et qui a un sentiment que tu touches comme ici, non? Mais moi, je crois qu'aussi avec la parole, on peut faire ça. J'ai aussi un petit peu ce préjudice de ne pas utiliser la parole, mais préjudice, non.
Préjugé,
oui. Contre la parole, mais j'ai vu beaucoup de films qui m'ont touché, qui la parole, il vient ici aussi, c'était étonnant aussi. Donc, à la fin, c'est de faire un objet qui, dans tous les cadres, qui nous touche ici. Moi, je sens ça aussi, mais la parole peut faire aussi ça, je crois.
Mais là, on met la parole au centre de notre discussion. Parce qu'on parle de traduction, et en fait, il y a plein de choses qui passent, qui transmettent dans un film, qui transpirent dans un film, qui voyagent d'un endroit à l'autre, et qui se passent de ce problème-là, en fait, qui passent à travers ce problème-là, comme un bateau passe dans la mer, comme un train. Et donc, le cinéma comme moyen de transport, je pense que ça marche bien. Donc, l'idée de la traduction, elle est déjà de traduire des choses dans des images et dans des sons.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que je pense qu'on traduit aussi le geste. C'est-à-dire que, justement, dans le cinéma, c'est où on voit clairement que, si tu vois des films, par exemple, japonais ou des films africains, dans lesquels la gestique du corps est très différente, pour bien comprendre la situation, en fait, tu dois te poser dans la situation d'une traduction dans laquelle tu dis, oui, dans ce cas-là, je ne m'identifie pas à ce type de mouvement, je le sais par des apprentissages culturels. C'est parce que tu as vu d'autres films japonais ou parce que tu as lu des livres sur le Japon ou quoi que ce soit. Sinon, tu peux te trouver... Tu peux même pas ne comprendre très bien pourquoi les personnages font ça. Dans le film de Osu, par exemple, c'est très clair.
On pense tout de suite à ça.
Dans le film de Osu, pourquoi les personnages ne font rien par rapport à certains problèmes qui se posent dans le film.
Tout à fait. Il pose autrement le corps et la question de la famille et tout ce qui se passe dans une famille, la révolte, l'autorité, l'autonomie, tout se pose dans d'autres gestes. Et c'est ça qui est beau et qui nous apprend, c'est de regarder ces gestes-là. Avant de les traduire, déjà de les regarder comme quelque chose d'étranger, comme quelque chose qu'on saisit pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'on ne les comprend pas, c'est vrai. Il faut accepter qu'on ne comprend pas bon nombre de choses, oui.
Le mot traduire ne veut pas dire seulement les mots. Dans les mots traduction, on ne parle pas que des paroles. Il y a quelque chose qui va d'un côté à l'autre.
Moi, je pense au film de Kiarostami, par exemple, Abbas Kiarostami, en Iran. Ces films qui sont dits les plus universels dans le monde entier, comme Le goût de la cerise, ça, c'est le meilleur exemple, qui ont fait le tour du monde entier, qui ont gagné des prix partout et que vraiment applaudi par sa universalité et que le fait que c'est bavard dans l'image, justement, et pas dans les paroles, est le moins apprécié en Iran. Parce qu'en Iran, les gens disent, alors, c'est quoi ça? C'est pas un film. Par contre, ces films qui sont le plus bavards et qui sont moins universels parce qu'il y a tellement de sous-titrages. Parce que, par exemple, un de ses derniers films, enfin, ça fait déjà quelques années, qui est Ten, qui est très bavarde, justement, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, et c'est un de ses premiers films où il y a beaucoup de dialogues, donc beaucoup de sous-titrages. Moi, j'ai fait l'expérience, justement, une fois voir en tant qu'Iranienne, et une fois lire, essayer de ne pas écouter. Et c'est vrai que vous ne voyez pas le même film, parce qu'il y a des choses très importantes qui sont perdues. Et par exemple, un film comme... ces films bavardes, comme Close Up et tout ça, qui a les paroles et tout ça, sont considérés comme des films en Iran. Mais les films, disons, universels et bavards dans l'image, ne sont pas considérés comme des films en Iran. Enfin, le public est allé le voir juste parce qu'il avait gagné le prix de Cannes.
From my position as programmer, I always find it interesting. I see a lot of films from different countries, from different cultures. My background is also as a social anthropologist, so there's a bit more maybe open-mindedness to try and understand. But whenever I see films from
countries whose cultures I know very little about. Very often, especially with documentaries, I'm in two minds. I'm not sure whether this is a film that's trying to appeal to me as the foreigner, or does it appeal to me only because I'm looking at it from the outside? So if I have a chance, and especially with Iranian films, that happens often to me, that I have to ask somebody from the country and say, look, am I interpreting something into this that's not there? And also within Europe, I mean, there's certain traditions, and I should let Eve...
Donc, moi, en tant que programmatiste, j'ai l'habitude de regarder des films parfois, et mon éducation est comme anthropologue sociologue, donc j'ai forcément une ouverture, une vue de comprendre des cultures différentes. Mais parfois, quand je suis face à un film qui vient d'un pays qui m'est étranger, que je ne connais pas du tout, c'est difficile. Est-ce que je regarde le film et ça me plaît justement parce que j'ai ce point de vue extérieur, ou est-ce que ça me plaît parce que c'est un bon film, parce que c'est un film divertissant? Par exemple, ça m'arrive souvent par rapport aux films iraniens, et parfois je suis obligée de demander à quelqu'un du pays pour demander si je traduis ou si j'interprète ce qui se passe sur l'écran.
And that's what I found interesting with your commentaries. I think it's the same. There's certain German films that are super successful outside of Germany, and then there's the ones that you know are successful inside Germany. Some of them, thankfully, never travel. I mean, you know, there's some comedies and things like that, but there certainly is a difference between inside and outside.
Par exemple, il y a certains films allemands qui font un succès fou en dehors du pays, et d'autres qui sont très populaires en Allemagne. Et parfois, heureusement, il y en a qui voyagent pas, surtout les comédies, et qui sont un peu lost in translation.
Which brings me really to one of the films that is in the program, where I know that the director has most difficulty to travel with his films, and that's the Czech Karel Vachek. And Andrea mentioned that yesterday in the Agora. Within the Czech Republic, Karel Vachek is considered to be the greatest filmmaker of the country, living documentary maker, certainly the country has to offer. But when you leave the country, they say, Karel who? Who's that? Have we ever seen a film by him or heard anything about him?
Et par rapport à un film qui est diffusé ici du réalisateur tchèque Karel Vachek, c'est un exemple des films qui voyagent mal. Dans la République tchèque, il est considéré comme le meilleur documentariste au pays. Et quand ces films voyagent, on se demande Karel qui, c'est qui, d'où il vient.
Again, that was one of the joys when programming this program to you know have a chance to present Karel Vachek in a context where I hope he will find an audience that he would otherwise would be difficult to find.
Et c'était un des plaisirs de sélectionner un programme justement qui me donnait l'occasion de présenter Karel Vachek dans un cadre où il serait peut-être il aura accès à un public plus large qu'il appréciera.
When you have your films presented in a screen environment, is that for you a different form of presentation? Is there a difference between the two? I mean, have your films been presented outside of the cinema ever, or?
Tout à l'heure, quand on discutait, c'était clair qu'il y avait beaucoup entre les réalisateurs qui avaient présenté leurs films non seulement dans les salles obscures, mais dans d'autres contextes, dans d'autres cadres. On parlait de l'installation, du vidéo et du cinéma, et je me demandais si c'était une expérience différente de voir son œuvre dans les salles obscures et dans d'autres contextes. Est-ce que vous avez montré vos films en dehors du cinéma ?
Oui, donc je fais partie de ceux qui montrent mes films et dans les cinémas et dans des lieux d'art contemporain. Donc la différence la plus manifeste que j'ai pu constater, c'est celle du regard qui est porté au film. Dans un cinéma, il y a un temps, il y a un top départ et il y a une fin. Dans un lieu d'art contemporain, finalement, l'idée même que le film a un début et une fin est quelque chose qui est plus pris en compte par le déplacement du public. Donc le rapport au film est assez différent. Et lorsqu'il s'agit d'un film qui est absolument construit sur une narration, la projection cinématographique me semble être, en tout cas pour mes films, la meilleure option. Parce que ça donne réellement au public la possibilité de vivre le temps du film. Et du coup d'être contraint. Et je crois beaucoup au fait que la contrainte peut avoir en tout cas un intérêt dans ce cadre-là. En tout cas spécifiquement lorsqu'une narration a une réelle importance. Mais sinon, le glissement tout à l'heure, on en parlait sur le contexte en fait qui définit même ce qu'on est censé être, c'est-à-dire on cinéaste lorsqu'on montre un film dans un cinéma et vidéaste lorsqu'on montre exactement la même chose dans un lieu d'art contemporain. Donc finalement, on est un petit peu rattaché à l'espace qui nous présente, mais enfin pour ma part je trouve ça plutôt bien qu'il n'y ait pas de barrière particulière qui se fasse entre les deux et que ça nous permette de naviguer d'un univers à un autre.
Moi c'est comme toi, l'idée dans les installations c'est aussi enfin pour mon travail c'est bon, déjà c'est des triptyques donc qui sont pas synchronisés, donc il y a X nombre de scènes qui se juxtaposent et tout ça, et puis surtout l'idée c'était aussi qu'il n'y a pas un début et une fin, et dans une exposition collective c'est très intéressant parce que les gens naviguent, ils entrent, ils voient un morceau, et moi mes scènes sont, il y a des scènes très très courtes, et pour moi l'idée c'était si quelqu'un entre et qu'il est encore plus impatient que moi dans une installation vidéo et qu'il voit juste 3 minutes, il aura déjà vu quelque chose. Et puis il y a des gens aussi qui s'assoient pendant 5 heures et qui m'ont dit qu'on a vu 5 heures de film parce que les 3 écrans, les scènes se juxtaposent différemment parce que c'est pas synchronisé. Et donc il y a d'autres lectures. Du coup, je fais des interviews avec des journalistes ou des étudiants qui ont écrit sur mon travail qui m'ont parlé de scènes que j'ai jamais faites. Et ça, j'adore parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête du spectateur. Parce qu'il voit mon travail, après il va voir deux tableaux où une sculpture revient, voit une scène, et ça c'est quelque chose de vraiment génial. Et puis aussi par rapport à ce que tu dis de nous caser, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit que j'étais artiste visuelle, et il y a un spécialiste de cinéma iranien qui a écrit beaucoup sur moi, il a fait beaucoup de conférences, il m'a mis dans les livres d'histoire du cinéma, il m'appelle le cinéaste expérimental, et c'est drôle, moi... Je dis, si vous voulez, pourquoi pas, parce que ça me fait très plaisir. Je suis très flattée qu'il a écrit sur mon travail, parce qu'il écrit très bien. Et ça m'intéresse ce qu'il dit sur mon travail. Mais ça a blessé beaucoup de cinéastes iraniens. Parce que j'ai entendu beaucoup de cinéastes iraniens qui m'ont dit, mais ton travail, c'est des documents. Parce que c'est la vidéo, parce que c'est le personnage réel, c'est moi dedans. Et que c'est pas de fiction, donc c'est pas du cinéma, donc ça relançait un autre débat. Donc ça leur a beaucoup blessé quand on m'a mis dans un livre d'histoire du cinéma iranien.
Tu parlais de traduction aussi, moi je fais aussi pas mal d'installations et du dessin aussi, de la photo, et je trouve que dans le processus même de l'idée d'un film, en fait, c'est quelque chose qui peut se déployer comme une forme plastique, en fait. Et par exemple, avec le film que je montre, Brasilia Chandigarh, la première version que j'ai montrée, c'était une performance au Palais de Tokyo et c'était un slideshow des photos de repérage du film. Donc il y avait une demi-heure de projection comme ça. Et le son du film était remixé par un musicien en direct. Et deux philosophes parlaient du film en devenir, en fait, sur les photos de repérage, en fait. Donc en fait, pour moi, c'est la même idée, en fait, le même concept qui se traduit dans plusieurs formes. Et après, le film a trouvé une forme sur plusieurs écrans, comme ça, avant de maintenant être condensé dans une forme linéaire, qui est plus forte, je pense. Et là, je vais le remettre dans le circuit des expositions, en fait, mais sous la forme de film, plus sous forme d'installation. Donc ça va être un film de 26 minutes. Mais par contre, les photos de repérage ont été traduites justement en gravure et en dessin. Donc ils donnent des indications sur l'univers du personnage, etc. À ce niveau-là, je pense que quand on parle de traduction dans les arts plastiques, tout, c'est plus des traductions de format. Parce que ce n'est pas forcément le même film qu'on va rejouer, mais c'est plus une question d'idée et de projet, en fait. Et est-ce que ce projet va prendre à un moment la forme d'un film en salle ? Et être rejoué d'une autre manière, ça peut être un synopsis. Enfin, je sais pas, il y a des. pas mal de cinéastes, hein, Godard avec ses synopsis visuelles ou ce genre de choses, en fait, qui rejouent l'idée d'un film. C'est une traduction plastique, en fait, quoi, d'une idée, quoi. Je pense que c'est. Enfin, voilà.
Bonjour, donc c'est peut-être pas une question qui concerne directement le sujet, mais enfin, vous avez parlé tout à l'heure des festivals et de est-ce que vos films sont vus ou pas au niveau du grand public ? Et je me posais la question, j'ai l'impression depuis quelques années qu'il n'y a jamais eu autant de festivals, et en même temps, je constate que les films qui sont montrés dans les festivals ont souvent des difficultés ensuite à franchir cette barrière et à atteindre le grand public, parce que quelque part, c'est un peu l'objectif quand même. On se pose la question, entre guillemets, je me pose la question, entre guillemets, de l'utilité et de l'impact des festivals sur le fait de porter un film en dehors du fait que, voilà, il soit vu par des professionnels, par un public avisé, par un public d'habitué. Parce que je crois qu'aller dans un festival, c'est une démarche aujourd'hui militante pratiquement, parce que sinon, c'est vrai que la télévision aujourd'hui envahit tout, quoi. Et deuxième question, quelle importance vous attachez au son dans votre travail de documentariste?
I think I'll give a quick answer about the festival's question and then we go into the sound question, because I think the why do many people screen their films at festivals is because there is very few other places to screen your films, and even though the audience might be small and you can count them, you can shake everybody's hand who comes to your film, you can even take their home address and send them a Christmas card if you want to. Certainly some of you have experienced that, but for many films, this is the one place where you will find an audience that responds to your film. If you screen your film on the television, you have huge numbers, but you don't know a single one of them. If you get your film out into the cinemas, it will probably be not on screen anymore before you've told all your friends that your film is in the cinemas, because cinema is in a very difficult stage at the moment. You can try to put your film out on the internet and reach a huge audience and maybe get a few emails and get a few MySpace on Facebook and whatever else friends, but the one place to reach quality audience, even though it might not look like it, is unfortunately at the moment the festivals, unless we manage to build something else.
D'abord, par rapport au festival, c'est un des rares espaces où les réalisateurs ont l'occasion de diffuser leurs films. Et bien que parfois le public est peu nombreux, on peut leur serrer la main, on peut même leur envoyer une carte de Noël si on veut. Il y a un public informé et si le film est diffusé à la télé, ça serait diffusé peut-être avec un public plus large, mais dans l'anonymat total, le cinéma, parfois les diffusions sont très très courtes. Et en diffusant sur l'internet, on aura peut-être quelques emails, mais c'est au festival qu'on a, on peut vraiment comprendre la réception du film.
Quand on va dans un festival, même si on rencontre une ou deux personnes ou trois personnes qui vont s'intéresser à ce que tu fais, c'est déjà très très très, c'est le grand luxe, quoi. C'est vraiment superbe. C'est une belle. Je veux relativiser un petit peu votre position. Vous dites les masses, mais qu'est-ce que ça veut dire les masses? Non, c'est pas du tout une question de dévalorisant, mais je comprends votre élan. Moi aussi, je le ressens aussi. J'ai envie que. Pourquoi je suis allée, en sortant de l'école de cirque, pourquoi je suis allée jouer dans la rue pendant un certain nombre d'années? Parce que j'avais envie d'être en contact directement avec un public. Et c'est vrai que le parcours d'un artiste pour être en contact avec son public, il est long et il passe par plein de moments d'extrême solitude. Mais en même temps, ça remet pas en cause les lieux qui existent. C'est-à-dire qu'un festival. On peut bousculer les choses, hein. On peut mettre un petit coup de pied dans l'âne, pardon. Mais on fera pas, on peut pas transformer les choses d'un coup de baguette magique. Ça se passe vraiment petit à petit et pas à pas et avec plein de petites choses. Nous, on travaille donc dans un lieu, le Polygone Étoilé, qui essaye justement de mettre en contact les réalisateurs avec un public de quartier, avec un public de tous les jours. Et c'est un travail de tous les jours, effectivement. C'est-à-dire que chaque jour, il faut aller parler avec les gens. Si tu veux leur dire pourquoi venir voir ce travail de documentaire ou de pensée du monde par les images et par les sons. qui est totalement à des kilomètres de leurs préoccupations et de leur façon de vivre, quoi. Donc c'est un boulot vraiment de il faut le prendre ce travail.
Je pense que la question est posée d'une façon peut-être un peu trop schématique. Hein. La vie culturelle est assez complexe, elle a des degrés variables. La cartographie qu'il y a entre le chez-soi et la solitude et l'arrivée à un possible grand public, elle n'est pas seulement une question spatiale, elle est aussi une question temporelle. Si nous, on pense par exemple que Botticelli travaillait strictement pour 10 personnes dans la cour de Florence et qu'il se relèverait la tête, mais non, il se voyait dans les calendriers. Dans les calendriers, il serait horrifié. Et que donc, je pense que vraiment poser les choses comme ça, c'est un peu trop immobilisant. C'est beaucoup plus intéressant de voir comment, dans des endroits comme ça, comme les filles de Marseille, nous avons cette occasion splendide de parler entre nous, par exemple, d'échanger des expériences. Et c'est très enrichissant. Pour moi, ça le sera. Et que ça va nous amener à penser les choses d'une autre façon, et arriver chez nous, et penser peut-être que je devrais faire plutôt ça, et puis réagir sur ça. Quelqu'un peut voir le film ici, on ne sait jamais, c'est vraiment complexe. Ce qu'il faut penser, c'est à cette complexité, et peut-être introduire des messages comme un espèce de jeu dans lequel on va voir où ça va sortir finalement.
I just wanted to add a small example concerning importance of the festivals. In Czech Republic, there are two documentary film festivals. And maybe 10 years ago, there was no documentary in cinema. And during these 10 years, when these two festivals are working with the audience, and I also think that festivals somehow educate the audience and show them how differently can, what in different ways can documentary mean, for example. They broaden their horizons of the audience. And the result is that today in Czech Republic we have 5 or 6 documentaries in the normal cinema distribution during the year. And it's obvious that it's really because of this closer contact of documentary with the audience.
Je vous donne un exemple par rapport à la République tchèque. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de cinéma documentaire. Maintenant, depuis 10 ans, donc, il y a 2 festivals dans la République tchèque. Et à travers des années, en travaillant avec le public, en éduquant en quelque sorte le public, ils ont ouvert leurs horizons. Ils ont une autre façon de comprendre l'essence du documentaire. Et aujourd'hui, dans des cinémas, il y a 5 ou 6 fois sur l'année, il y a des films de documentaires qui sont diffusés. Et c'est grâce justement à ce contact et ce rapprochement du documentaire et au public.
And there is one more important thing, that festivals are not only a series of screenings, but they also open this dialogue about films. So they have discussion with directors, and also some of the festivals have their own publicist activities. They publish books or initiate some critical dialogue about documentaries. Again, I can talk about Czech Republic, where several years ago you can read nothing about documentaries in newspapers or even in the film magazines. But today, also the film critics take a documentary into account. It's some issue for them.
Par exemple, les festivals sont non seulement des séances, mais aussi des dialogues. Ils provoquent la discussion et peuvent promouvoir le documentaire non seulement sur les écrans, mais aussi dans les livres, dans le critique. Par exemple, dans la République tchèque, il y a des années, il n'y avait pas de mention du tout des documentaires dans les journaux, même dans les magazines de cinéma, et la situation a changé radicalement.
I think there are also questions of social and political questions that some documentaries bring up, and it really bothers me that it's for us. You understand? Like, I know these political issues. It should be for a lot of people, and in that sense, I think that they should come out for the street.
Ce qui me gêne dans ce genre, c'est que parfois il y a des films qui ont des thèmes sociopolitiques que je sens besoin d'être mieux connu par un public large. Mon film n'est pas dans ce cas, mais ça me gêne quand je vois des films que j'ai envie de partager et d'être dans la rue avec.
Sometimes I get the feeling that we are talking one to each other. I don't know if you understand. We are talking to ourselves. We should come out to the streets. La révolution, it takes time. I think so. But I, comment? Projection publique gratuite. Oui, c'est ça. Engager plus le public avec le festival, c'est.
Parfois, j'ai l'impression qu'on se parle tout seul. On devrait descendre dans la rue, faire des projections gratuites au public à Marseille et ailleurs, et vraiment partager le documentaire avec le public.
Now you had a second question, which I think we shouldn't drop here. Unfortunately, the time is quite advanced, and there's another session in here. So what I propose is that we take your second question about the sound in film now, and take a quick round, which will then also be the final round.
Par rapport à la question concernant le son et l'image, on fait vite le tour parce qu'on a bientôt plus le temps.
Ok. Ben pour Brasilia Chantigard, j'ai utilisé pas mal de prises de son direct, en fait, de son d'ambiance, en fait. Et je me suis beaucoup nourri du son de l'Inde, en fait, où il y a énormément de musique et de prières, etc. C'est un pays très, très bruyant. Et comme tu disais, en fait, j'ai déplacé ces sons, ça permet d'avoir une espèce de lecture du réel, en fait, d'interprétation comme ça, qui est complètement remontée après avec les prises de son. Et dessus, il y a une bande son. En fait, j'ai travaillé avec un musicien qui a joué cette espèce de répétition des architectures et tout ça, un peu comme une musique quasiment sérielle, en fait. C'est une seule note. Et qui, je pense, donne aussi une espèce de relecture du réel, comme ça, comme tu disais. Enfin, je trouvais que l'analogie entre documentaire et traduction du réel, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, ça laisse la place aussi à la fiction de s'intégrer. En fait, c'est une fiction qui peut être comme un fil rouge pour lire le réel aussi, ou comme un vecteur qui permet de le capter, de le filmer. Voilà, donc l'utilisation du son, en fait, que j'ai pu faire avec ça, c'était un peu des impressions et des choses qui permettent de donner une lecture des images, en fait, quoi, ou de réveiller des choses dans certaines images, quoi.
Pour ma part, je considère un film comme une pièce polyphonique dans laquelle il y a les images, les sons et l'espace éventuellement. Ça dépend si c'est une vidéo installation ou même si c'est pour la télévision. Et cela veut dire que, comme dans la bonne tradition polyphonique, l'autre voix, la voix du sonore, c'est une voix porteuse de sens, qui doit trouver sa façon de s'articuler avec la voix d'image. J'aime bien considérer que dans les sons, il y a un sens particulier, que donc j'aime pas trop la logique redondante de montrer simplement les sons qu'on attend d'une certaine image, ou simplement répéter les dialogues, ou des choses comme ça. J'aime bien, par exemple, enlever la synchro entre les gens qu'on voit et les choses qu'on dit. Et de cette façon, permettre une espèce d'élargissement sensoriel par rapport à l'expérience d'être en train de regarder.
Enfin, pour moi, c'est toujours le son tel qu'il est. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je direct, voilà. Et même pour ce film-là où il y avait des micros, parce que normalement, je n'utilise même pas de micro, parce que j'utilise le son que mon petit caméra H8 prend. Mais pour ce film, que c'était avec un HTV, on avait des micros, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de langues et de traductions. Les traductions, c'était fait direct aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un voix off qu'on a ajouté, c'était pris dans la même salle. À part, à un moment donné, j'ai fait une petite chanson, c'est juste un petit complexe de chanter, et que j'en ai profité pour ne pas être là physiquement pour le faire, comme ça. Et qu'à la fin, au générique, j'ai ajouté un truc, mais c'était très, très exceptionnel. C'est vraiment que le son direct.
Moi, je filme souvent en Super 8, donc le son vient nécessairement après. Mais je me suis aperçu que même quand je filmais en numérique, donc avec un son synchronisé au montage, je le désynchronisais systématiquement, parce que ça ne marchait jamais comme je voulais. Donc en fait, l'image et le son sont vraiment deux pistes séparées. Enfin, j'arrive pas du tout à les à les concevoir comme... Enfin, tout bêtement, je me dis que si je suis à la terrasse d'un café, mes oreilles vont pouvoir aussi entendre des choses qui se passent derrière moi, et ça fait partie de mon univers, et que ça n'est pas absolument synchrone avec ce que mes yeux vont voir. Donc, du coup, je pense qu'il faut que le son apporte effectivement une dimension supérieure, et que surtout, il n'illustre en aucun cas l'image. Sinon, j'ai l'impression effectivement d'une sorte d'appauvrissement.
Oui, moi, en fait, c'est assez récent que je me pose la question du son. J'ai fait des vidéos où il n'y avait pas de son du tout, et puis progressivement il y a eu une nécessité de demander à des gens de s'occuper du son, parce que moi je ne suis pas du tout compétente pour ça, et notamment une performance que j'avais fait qui a donné lieu à un film de 6 minutes qui a donné lieu à une création musicale spécifique. Et là, par rapport à mon film ici, Année Lumière, en fait, il y a également quelqu'un qui a travaillé avec des sons prises directes que j'avais fait pendant le tournage. Et en fait, au moment où je fais les images, je suis incapable de penser au son, donc, et je n'étais pas équipée pour prendre du son, et j'étais seule. Donc je mettais le cache sur la caméra pour être sûre de ne pas regarder et de me concentrer que sur le son à certains moments pour... prendre les bruits de banquise, des choses spécifiques que je voulais ramener, qui étaient indispensables. Mais par contre, après, c'est quelqu'un qui... Cécile Prado, qui a fait toute la partie conception sonore, en fait. Et je me suis dit, je ne sais pas si je vais réussir à changer de méthode de travail, mais je me suis dit que pour le prochain film, il fallait au moins qu'on soit deux. Parce que là, c'était quand même... Après coup, je me suis rendu compte à quel point, pour elle, ça a été compliqué de travailler avec ce que je lui ai ramené. Et puis aussi, tout simplement, parce que pour moi, c'est une vraie nécessité maintenant de ne pas seulement penser avec les yeux, mais que ça devienne des choses sonores aussi.
Les sons et la véritable poésie.
Poésie.
I'd like to thank you, and of course, Eve, for helping us to kind of translate the translating... Your obsession.
Bah, merci à tous d'être venus. Vous avez sûrement loupé plein de films, et merci d'avoir traduit l'Europe.
With TV, you can't even think of something different. With movie, you can't.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Une petite négligence.
Michel, tu veux parler de qui elle est? Qui elle est? Boss? Tu peux parler de qui?
Oh, super, c'est quoi?
De qui?
Qui est que bien mis tamni? Pourquoi ils sont bons?
C'était la table ronde autour de la programmation de l'écran parallèle Traduire l'Europe proposé par le FID. Demain matin, 10h sur les 3-8, retrouvez la table ronde Zanzibar.